Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnacq, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès et vice-présidente du Rassemblement. Virginie Ruffnacq, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, il y a beaucoup de choses dans l'actualité, beaucoup de sujets d'actualité à voir avec vous. Mais tout d'abord, vous êtes l'une des spécialistes incontestées, on le sait, du corps électoral. La révision de la liste spéciale provinciale vient de se terminer. Elle s'est faite conformément à un corps électoral gelé. Alors, on sait qu'à l'époque, vous aviez protesté contre cette méthode. Comment ça s'est passé, finalement, cette révision? Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire part de votre sentiment sur la manière dont on révisait une fois de plus cette liste électorale en vue des provinciales de 2024?
Bah écoutez, je voulais saluer la déclaration du représentant de l'État sur Radio Rythme Bleu ce matin, en la personne de Rémi Bastille, qui finalement a très très bien posé le contexte et a avoué lui-même les incohérences juridiques aujourd'hui sur cette fameuse liste électorale, en soulignant le fait que les petits-enfants de ceux qui avaient voté en 1998 pour l'accord de Nouméa ne peuvent plus être inscrits aujourd'hui, quelle que soit leur origine, d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, et donc juridiquement on n'est pas dans les clous. Soulignant qu'il y avait une nécessité d'évolution de cette liste électorale et qu'en attendant, il y avait une révision, mais qui, en fait, ne voulait pas dire que cette liste avait avoir valeur pour les prochaines élections provinciales, reconnaissant lui-même que cette liste ne pouvait pas rester en l'état. Donc déjà, il faut reconnaître cela. Aujourd'hui, vous le savez, l'accord de Nouméa est fini, j'ai eu l'occasion de le dire. Le corps électoral restreint n'était acceptable juridiquement même, hein, au-delà du caractère politique et de l'injustice politique que constitue ce gel du corps électoral, que pour la période de l'accord de Nouméa qui est
terminé. Donc c'est vraiment une certitude aujourd'hui, les prochaines élections provinciales vont se dérouler avec un corps électoral qui ne sera plus ce corps électoral gelé que l'on connaît depuis 2007.
C'est une certitude, puisque le ministre lui-même, d'ailleurs à Paris, lors des fameuses bilatérales, nous l'a dit, la moindre convocation sur un corps électoral tel que celui d'aujourd'hui, un corps électoral gelé, vaudrait qu'on puisse faire très facilement tomber par recours sur le décret de convocation des électeurs sur une élection provinciale sur un corps électoral gelé. Et donc, ce recours ferait tomber immédiatement à ce décret de convocation des électeurs. Cette élection ne peut plus se tenir aujourd'hui sur un corps électoral gelé. Chacun le sait, pour les raisons qu'on évoquait avant, on peut même presque plus inscrire des personnes qui sont inscrites à tort dessus. Donc voilà, tout est caduque et donc tout est à remettre à plat. Et en tout cas, il faut dégeler.
Mais alors, comment dégeler, comment faire évoluer ce corps électoral? Est-ce qu'un accord sera possible, selon vous, avec les indépendantistes, qui sont très crispés sur cette question? On sait que c'est pour eux la mère des batailles, comme ils le disent volontiers. Ou est-ce que l'État devra passer en force, faute d'accord, entre les partenaires locaux?
Mais écoutez, en tout cas, nous comptons sur notamment les réunions à trois qui doivent se tenir prochainement. Parce qu'effectivement, c'est quand même mieux en Calédonie. Vous savez, aujourd'hui, la position des indépendantistes, qui est de ne pas vouloir discuter, fragilise considérablement le processus calédonien. Un processus qui s'est toujours appuyé sur une dynamique de dialogue, de négociation et de consensus. C'est ça qui a produit les accords, avec des hommes qui étaient capables de se mettre au-dessus des intérêts partisans et de conclure entre non-indépendantistes, indépendantistes et l'État, des accords de développement de la Nouvelle-Calédonie, de paix, pour faire en sorte que les habitants de ce territoire vivent dans des conditions satisfaisantes. Donc aujourd'hui, l'attitude des indépendantistes, elle bloque considérablement et elle fragilise énormément le processus calédonien. Donc moi, j'espère qu'ils en sortiront. Mais pour répondre à votre question, quoi qu'il en soit sur le corps électoral notamment, si jamais ils ne veulent pas évoluer, eh bien, d'ailleurs, le ministre l'avait un peu affirmé lui-même, hein. J'espère bien, et on considère que de toute façon, il y aura passage en force, parce que ça serait dommage d'ailleurs, parce que ce corps électoral, comme je le disais, ne peut plus durer. Alors, ce passage en force, il nécessite quand même des majorités.
Et il nécessite notamment une modification de la Constitution, c'est quand même un point essentiel, et pour modifier la Constitution, il faudra réunir le Parlement en congrès à Versailles, ce qui pose beaucoup de questions déjà, il faudra une majorité des 3/5. Vous pensez que cette étape-là sera possible? Vous en avez parlé quand vous étiez récemment à Paris avec les groupes politiques?
Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, vous avez raison de le dire, il faut une modification constitutionnelle des 3/5 des parlementaires réunis au Congrès de Versailles, sénateurs et députés. Et cette majorité n'est pas possible aujourd'hui avec le seul parti du président de la République, Renaissance. Il faut aller chercher les Républicains, famille à laquelle, vous le savez, notre mouvement, présidé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie par Alcide Ponga, appartient. Donc, évidemment, cette unité sur... Enfin, en tout cas, cette union entre les Républicains, et Renaissance, et donc localement entre les loyalistes et le Rassemblement, est indispensable pour avoir une majorité dans nos assemblées parlementaires pour dégeler le corps électoral. Je doute fortement que LFI, la NUPES, soient favorables au dégel du corps électoral, si vous voyez ce que je veux dire. Donc évidemment, vous, pour répondre à votre question, moi j'ai fait 25 rendez-vous en 12 jours. Nous avons vu évidemment toute notre famille politique, du président de groupe de l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, à celui du Sénat, Bruno Retailleau, au président du parti lui-même, Éric Ciotti, au président du Sénat, Gérard Larcher, à d'autres collègues du groupe aussi en marge de nos différents rendez-vous. Mais nous avons vu aussi les autres groupes, notamment celui du parti du président de la République avec nos collègues loyalistes. On a fait vraiment des démarches totalement communes dans ces différentes rencontres que nous avons eues à Paris. Nous avons rencontré le groupe Rassemblement National également. Nous avons vu les conseillers du président de la République, de la Première ministre, enfin, en dehors des rendez-vous avec le ministre Darmanin lui-même et la Première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler, mais enfin, ça a été vraiment un moment très important pour que, ensemble à Paris, loyalistes et nous disions, nous ne voulons pas de dispute nationale des partis nationaux sur le sujet de la Calédonie. Nous nous battons pour notre souveraineté restée au sein de la République depuis trop d'années pour que nous ayons le luxe de division nationale sur ce sujet de Français qui ont manifesté à de si nombreuses reprises leur attachement à la République française et la volonté d'y rester.
Mais c'est pas évident parce qu'on sait quand même que sur d'autres sujets, notamment les relations entre Renaissance et les Républicains sont pas forcément excellentes. Ils ont besoin les uns des autres. Vous avez senti que sur un sujet comme celui de la Nouvelle-Calédonie, il y aurait une espèce d'union sacrée, si on peut dire?
C'est exactement ça. J'allais utiliser ce terme, d'ailleurs. Vous m'avez précédé. C'est exactement ça. Nous avons suggéré l'union sacrée des partis nationaux qui défendent la Calédonie française pour nous, pour l'intérêt des Français de Nouvelle-Calédonie que nous sommes et pour ce combat difficile que nous menons depuis tant d'années. Je crois qu'ils sont totalement conscients. Nous les avons convaincus. Ça veut dire que LR soutiendra une réforme constitutionnelle, et notamment, entre autres, sur le dégel du corps électoral. D'ailleurs, le sénateur Pierre Frugier lui-même avait affirmé qu'il soutiendrait le président de la République lui-même dans le cas où il aille dans le bon sens et qu'il porte une réforme constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, nous avons mis, je pense, vraiment en phase l'ensemble de nos familles politiques. Et je fais une petite liaison. Vous savez que nous avons notre député européen, François-Xavier Bellamy, qui arrive sur le territoire à partir de mardi.
Il sera à votre place vendredi prochain.
Ah, voilà, c'est parfait. Voilà,
et il sera mercredi. J'en profite pour l'annoncer.
Et je fais de la pub. Il sera mercredi soir à 18h15 à l'université pour une conférence sur la Nouvelle-Calédonie et l'Europe. Et j'appelle l'ensemble des Calédoniens qui sont intéressés par ce sujet majeur, parce qu'il y a la France, mais il y a aussi l'Europe dont nous avons besoin en Nouvelle-Calédonie aussi. Nous sommes aussi des Européens, même si nous sommes loin du continent européen. Et donc, François-Xavier Bellamy est une des plus belles intelligences de notre famille politique, député européen, vice-président de notre famille des Républicains au niveau national. Donc, j'incite les Calédoniens à venir à l'université mercredi prochain à 18h15.
On parlait de la modification de la Constitution qui sera indispensable pour dégeler le corps électoral. On a parlé un moment de petit accord et de grand accord. Il va falloir également une modification de la Constitution pour le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, pour sortir vraiment de l'accord de Nouméa. Ça, vous pensez qu'on va y arriver? Les deux pourront pas être possibles en même temps. On sera pas prêt pour tout modifier d'un coup.
Bien sûr, quand on est honnête, transparent avec les Calédoniens, on se dit que, comme l'État, d'ailleurs de manière louable, souhaite tenir les élections à l'heure, c'est-à-dire dit que les élections provinciales, elles auront lieu en 2024, on sait bien que l'élection ne peut se tenir sur un corps électoral gelé et que, autant dégeler le corps électoral, c'est une chose, réformer nos institutions, c'est un sujet majeur, parce qu'on a beau dégeler le corps électoral, c'est pas ça qui fera que la Calédonie rebondit. Nous avons des institutions à bout de souffle aujourd'hui. Moi, je le dis, trop d'élus, 54 élus au Congrès, tant dans les provinces, au gouvernement. Il y a une nécessité de réformer globalement nos institutions pour faire plus efficace, plus simple, plus proche de la population. Donc c'est une nécessité aussi, mais il nous paraît difficile, tant sur le corps électoral, le passage en force est indispensable, sur la réforme institutionnelle, nous espérons à un moment donné que nos partenaires adversaires, je ne sais plus comment on doit les appeler, indépendantistes, seront autour de la table pour que, vous voyez, nous puissions avoir une réflexion de responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie. de cette petite île française du Pacifique, avec une population d'une diversité et un environnement à son image qui est extraordinaire, et de façon à projeter les habitants de notre territoire et notre jeunesse en particulier vers son avenir, en discutant avec les indépendantistes de quelle société nous voulons pour nos enfants demain, comment faire de cette île un vrai rayonnement dans notre région, comment faire aussi, ça c'est nous qui le défendons, un porte-avions de la France et de l'Europe, ici, la Nouvelle-Calédonie, un porte-avions de la France et de l'Europe dans le Pacifique face aux enjeux chinois, américains. Tout cela, nous sommes un peu frustrés parce que nous considérons que chez les indépendantistes, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aussi à la Nouvelle-Calédonie, qui l'ont à cœur comme nous. Et donc nous, on est frustrés de ne pas avoir cet échange avec eux sur la façon dont ils voient les choses pour demain.
Mais ils n'ont pas l'air d'être prêts quand même. Vous nous parliez tout à l'heure des discussions à trois envisagées début juin. On députe trilatéral, il paraît, réunion tripartite, allons-y. Vous pensez que ça va être possible? Parce que quand on entend Eurocomitant ou quand on entend Gilbert Thuénon, on a l'impression qu'ils ne sont pas prêts pour l'instant pour ces discussions à trois.
Mais écoutez, chez eux en tout cas, dans le camp indépendantiste, à un moment donné, il va falloir que ceux qui ont vraiment à cœur la Calédonie et qui souhaitent projeter les nouvelles générations vers l'avenir, la Calédonie l'ancrée dans une modernité qui respecte sa tradition, sortent du bois et disent maintenant la posture politicienne, ça va bien. Et à un moment donné, il va falloir qu'on avance. Donc voilà, c'est, si vous voulez, moi je ne veux pas parler à leur place, puis je ne me permettrai pas. Puis vous savez, je les respecte beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Donc à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils soient à la hauteur de leurs prédécesseurs, hein, qui ont fait de grandes choses, hein, avec les non-indépendantistes, les partisans de la France aussi en Calédonie. Donc moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, j'ai l'espoir que cette chose se tienne. Alors, vous me parlez des réunions à trois, ce qu'on entend quand même, vous savez, il y a deux bilans. Et d'ailleurs, que les indépendantistes ont demandé. Hein.
Le bilan de l'accord, l'audit de la décolonisation.
Exactement.
Qui doit être rendu le 27 mai. Hein.
Ça a voilà, été rendu donc les public. Réunions en Calédonie, lorsque le ministre va venir début juin, c'est aussi l'occasion de discuter de ces bilans. Et je trouve que c'est bien, parce qu'on est à une croisée des chemins. On a 30 ans d'accord derrière nous, plus de 20 ans depuis l'accord de Nouméa. Il est peut-être temps de faire un bilan, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et d'essayer d'être un peu dépolitisé dans notre tête, être assez pragmatique pour regarder notre situation de ce petit bout de France dans le Pacifique et de voir un peu ce que ces accords ont produit comme effet et est-ce qu'il y a des effets positifs et d'autres qui le sont moins.
Et ces bilans, ça pourrait être une occasion de faire revenir les indépendantistes autour de la table.
Bon, en tout cas, de discuter de fond. Vous savez, moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui, qu'on arrête les postures, qu'on arrête les discussions sur de la forme. Vous voyez bien, trilatéral, réunion à trois, enfin, bon, je ne sais pas le Calédien ce qu'ils en pensent, mais enfin, c'est dérisoire, quoi. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les responsables politiques, ils prennent leurs responsabilités, parce que ce sont des responsables politiques, et qu'ils discutent du fond de la vie des Calédoniens d'aujourd'hui et de demain.
Petit retour en arrière, avant c'est hypothétiques trilatérales, il y a eu les bilatérales, les discussions bilatérales à Paris, d'un côté avec les indépendantistes, de l'autre côté avec les non-indépendantistes, comme on les appelait, vous faisiez partie de cette seconde délégation. Franchement, c'est un mois après, puisque c'était il y a pratiquement juste un mois, hein, je crois, le 11 avril, ça a été utile. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? À quoi ça a servi? Est-ce que ça a fait progresser la recherche d'une solution pour l'avenir?
Ça a été très utile à différents titres. Le premier d'entre eux, c'est que vous savez, il y a des moments dans la vie, il y a des évidences. Je décrivais tout à l'heure l'attitude qui est un peu triste, en tout cas pour nous, un peu triste des indépendantistes et qui perturbe le processus calédonien de dynamique de dialogue. Il y a le contexte des Calédoniens qui se sont tellement battus avec des questions, une question défavorable au référendum, avec un corps électoral gelé, pour affirmer malgré tous les obstacles qui étaient posés sur leur chemin qu'ils voulaient rester français. Face à cela, il y a une forme d'évidence entre nous, notamment, alors Amis en Confiance Rassemblement et les loyalistes, de s'unir et dire, on peut parler à plusieurs voix, parce que l'époque de Jacques Lafleur, elle est terminée, et il n'y a plus un seul chef charismatique qui s'exprime aujourd'hui. C'est ainsi, c'est aussi l'évolution du temps. Mais au moins, les différentes voix qui s'expriment, faisons en sorte qu'elles disent la même chose, et que nous exprimions le même message, la même aspiration, les mêmes orientations. Et donc, au-delà des 25 rendez-vous dont je vous parlais, où nous avons vu les responsables nationaux, nous nous sommes beaucoup vus entre nous aussi, pour essayer de trouver ces voix où nous pensions qu'on pouvait emmener les Calédoniens vers quelque chose de positif. Et ça a donné le fait d'une belle unité que nous avons souhaité poursuivre en Nouvelle-Calédonie et incarner au travers d'une grande tournée que
votre
nous avons
tournée
fait.
Retour de Paris.
De notre tour. Alors je m'excuse, avant de vous parler effectivement de cette unité et du retour de Paris, je vous disais que c'était à plusieurs titres que c'était important. Effectivement, il y a cette unité entre nous. Au-delà de ça, ce qui a été très intéressant dans les bilatérales à Paris, c'est que nous sommes passés à un autre stade de discussion avec l'État. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans le détail de chacun des sujets. Vous vous rendez compte, le ministre Darmanin Vous voyez bien, c'est quand même un ministre de premier rang. Nous avons passé 3h30 de travail, de déjeuner de travail avec lui. C'est un temps, il nous a consacré un temps très important aux indépendantistes, la même chose. Pour vraiment rentrer dans les détails, on parlait de corps électoral, on a parlé d'autodétermination, on a parlé de notre vision de la Calédonie de demain, de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas.
Vous avez déjà progressé un peu sur le futur statut, la future compétence, c'est des thèmes qui ont déjà été abordés avec l'État quand même.
On a bien affirmé, en tout cas, nous, ce que nous souhaitions, puisqu'on était en bilatéral, il n'y avait pas les indépendantistes, on n'était pas dans une discussion d'échange. Donc nous, on a manifesté, exprimé très clairement au ministre nos positions, notre volonté, voilà, d'une société harmonieuse en Nouvelle-Calédonie avec toutes les communautés, d'une France plus présente en Nouvelle-Calédonie, au travers de l'implantation de la défense. Vous savez, moi j'ai participé la semaine qui suivait à une réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Sénat, à l'occasion de laquelle je suis intervenue sur la Nouvelle-Calédonie. C'est important hein, de faire ce lobbying aussi, parce que dans ces réunions, il y a beaucoup de parlementaires français, et puis d'autres pays également. Donc chaque fois qu'on le peut, en tout cas, on explique la situation calédonienne, c'est important. Eh bien, j'ai parlé de l'Indo-Pacifique. Vous savez, nous avons la chance, Pacific Canyon réalise, d'être une île qui fait partie de l'Indo-Pacifique. C'est une chance, parce que la France sait l'importance de l'Indo-Pacifique. À l'échelle de 2040, l'Indo-Pacifique, ça sera les 3/4 de la population mondiale, les 3/4 des matières premières au niveau international, et 50% du PIB mondial. Ben nous, la Calédonie, la France, elle n'y est pas dans l'Indo-Pacifique, mais elle y est à travers la Nouvelle-Calédonie dans l'Indo-Pacifique. Donc nous avons la chance d'être là, de pouvoir jouer un rôle majeur. Et tous ces sujets-là, nous en avons parlé avec la France. La France, il faut qu'elle réalise, mais elle le réalise, le ministre le réalise, et d'autres aussi aujourd'hui, et le président de la République, je l'imagine bien sûr, que c'est une chance que d'avoir ce territoire français qui est la Nouvelle-Calédonie dans cette région Indo-Pacifique et dans la zone Pacifique et Océanie.
Alors un déplacement donc utile à Paris, et de retour, bon, vous avez effectué ce que vous avez appelé une tournée retour de Paris, loyaliste et rassemblement. Vous parlez vraiment d'une seule voix. Alors, les gens s'interrogent. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous différencient, ou est-ce que maintenant vous êtes vraiment tous ensemble? Comment expliquer les choses?
On a fait salle comble tous les soirs de nos réunions, que ce soit en province
sud, en
province nord. Avec des militants de différentes formations, salle comble tous les soirs. On voyait au début, vous voyez les regards, un petit peu sur l'interrogation que vous venez de poser. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous différencient? Pourquoi vous faites ça, etc. Qui étaient interrogatifs, parfois sceptiques. Et on voyait les sourires au fur et à mesure des réunions sur les visages des personnes qui étaient présentes. Je pense qu'elles ont réalisé qu'en fait, c'était pas une posture, c'était naturel. Cette union, elle est naturelle aujourd'hui. Nous la ressentons profondément. Et ces discussions dont je vous parlais, que nous avons eues en dehors des réunions officielles, elles nous ont vraiment permis aussi d'être solides sur nos fondamentaux. Et donc, je pense que ces réunions sont bien passées parce qu'il y a quelque chose de naturel entre nous. Alors après, c'est vrai que là, on a une nouvelle génération un petit peu aussi. Hein, on est un petit peu dans les mêmes âges. Nicolas Metzdorf est plus jeune que nous. Hein, c'est le plus jeune de l'équipe. Mais que ce soit Sonia Baquès, que ce soit Gilles Brial, évidemment, les gens qui nous entourent ont tous un peu un âge. Alcide Ponga, bien sûr, nous sommes tous un peu dans les mêmes âges. Quoi. Donc voilà, c'était naturel. Et évidemment, cette unité, elle ne doit pas que se traduire dans un discours commun sur les orientations de la Nouvelle-Calédonie. Elles doivent nous faire en sorte d'apporter aux Calédoniens dans les institutions, ici et à Paris, une image, enfin en tout cas une représentation à l'image de ce que souhaitent les Calédoniens, c'est-à-dire rester dans la France, c'est-à-dire que les partisans de la France doivent retrouver leur place dans les institutions calédoniennes, mais surtout on doit continuer d'envoyer aussi à Paris des parlementaires qui sont partisans de la Calédonie dans la France. Et à ce titre, vous le savez, il y a une élection qui va arriver très vite. Évidemment, les institutions locales, ce sont les provinciales l'année prochaine, mais ce qui arrive très vite, c'est l'élection sénatoriale du mois de septembre.
Très vite, c'est le 24 septembre. Hein. Comme ça, c'est le 24 septembre.
C'est le 24 septembre.
Oui, c'est bientôt, c'est en 5 mois. Quoi.
Même pas 4.
4 mois.
Et si il n'y a pas une unité autour de Rassemblement et Renaissance, qui sont les deux partis qui ont des grands électeurs en Nouvelle-Calédonie massivement, on va dire, et qui peuvent d'ailleurs à eux seuls avoir une majorité absolue, eh bien, s'il n'y a pas cette unité, les indépendantistes sont très forts sur les sénatoriales. Parce que vous savez, ils progressent dans les communes.
Ils n'ont pas encore eu de sénateur. Vous dites qu'ils sont très forts, mais dans toutes les élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, je pense pas me tromper en disant qu'il n'y a pas eu de sénateur.
Non, mais vous savez qu'aux dernières élections municipales, il y a une forte progression des indépendantistes dans un certain nombre de communes. Et donc, ils sont très présents dans les communes. En tout cas, sur cette élection sénatoriale, ils ont un nombre de grands électeurs très important. Vous voyez, la majorité absolue des grands électeurs, c'est à 288, me semble-t-il. Ils sont à eux tout seuls à 230, les Vaille-Océaniens 17. Vous savez qu'ils ont des alliances. Enfin, bref. Donc, il y a un score très important des indépendantistes. Et autant, moi, j'ai toujours dit que sur l'élection législative, il n'y avait pas de risque au travers des corps électoraux, des législatives, il n'y a aucun risque ni sur la première ni là sur la seconde d'avoir un indépendantiste à Paris. Et d'ailleurs, ça s'est avéré. Hein. Mais sur l'élection sénatoriale, la musique n'est pas la même. Ça veut dire que l'unité, elle est fondamentale. Ceux qui s'inscriront pas dans cette unité loyaliste Renaissance, parti du président de la République et Rassemblement, eh bien, ils vont favoriser l'émergence d'un ou de deux sénateurs indépendantistes. Et franchement, je crois qu'on ne peut pas se permettre de se retrouver comme en Polynésie française. La Polynésie française, ça doit être source d'enseignement pour les Calédoniens. Et le plus mauvais message que l'on pourrait donner, c'est d'envoyer à Paris un sénateur indépendantiste. Donc aujourd'hui, cette unité est fondamentale.
Alors, quelle est la physionomie pour ce scrutin aujourd'hui? On sait, pour l'instant, il n'y a que Pierre Frogier qui a déclaré sa candidature. Il souhaite un nouveau mandat de sénateur. Il est soutenu, on l'imagine, par sa famille politique, par le Rassemblement. Il y a d'autres candidats possibles? Ça se passe comment?
Ah, écoutez, en tout cas, il y aura un candidat officiel qui sera à la fois celui du Rassemblement, mais aussi celui du Parti National. Hein, donc, les investitures arriveront un petit peu plus tard.
Pour les Républicains.
Pour les Républicains, exactement. Mais en tout cas, nous, bien sûr, c'est Pierre Frogier qui est actuellement sénateur, qui n'a pas démérité, qui est le seul au Rassemblement à avoir posé sur la table un vrai projet d'avenir, qui est critiquable. Hein. Vous savez, lui, il veut la souplesse, revenir à l'esprit de Matignon, avec des compétences un peu plus dans les provinces, comme on était à Matignon au départ. Puis quand on a fait remonter les compétences vers la Nouvelle-Calédonie, on a commencé à se battre entre nous. Hein. C'est quand même aussi... Il essaye de proposer des choses qui sont force de son expérience et de son vécu. Et puis, évidemment, des compétences régaliennes à l'État. Enfin, là, il n'y a pas de scoop en la matière. Mais en tout cas, il n'a pas démérité. C'est quelqu'un qui, quand on va à Paris, dans n'importe quelle réunion, les gens nous disent « Et qu'est-ce qu'en pense Pierre Frogier ?» Quand on va voir Olivier Marleix au Sénat, à l'Assemblée nationale, je ne parle même pas du Sénat, où Pierre Frogier est extrêmement reconnu, écouté. Pierre Frogier, c'est quelqu'un qui débarque au Conseil constitutionnel pour voir le président du Conseil constitutionnel, qui connaît toute la génération politique française, qui est très respecté et reconnu. Donc, on a besoin à Paris, au Sénat, en tout cas, d'avoir des personnalités qui savent bouger les responsables nationaux, qui sont très écoutés, qui ont une expérience politique de ces institutions. Et en la matière, Pierre, c'est quand même quelqu'un qui est incontestable et qui occupe le fauteuil, le costume du sénateur.
Voilà. Pour l'instant, il y a deux, parmi les deux sénateurs, il y a Pierre Frogier, donc sénateur Les Républicains. L'autre sénateur sortant, c'est Gérard Poadjac, qui avait été présenté par Calédonie Ensemble. On parlait de l'unité des non-indépendantistes tout à l'heure. Calédonie Ensemble continue à faire cavalier seul quand même pour l'instant.
Oui, c'est très triste.
C'est gênant ou c'est normal?
Bah, c'est gênant, bien sûr, c'est très gênant parce que le problème, c'est que nous, on a toujours souhaité qu'il y ait une unité des non-indépendantistes sur des choses essentielles, hein, pas quand il n'y a pas de risque. Quand il n'y a pas de risque, le problème ne se pose pas, chacun peut se présenter. Je parlais de législatif tout à l'heure, bon, le problème ne se présente pas. Hein. Bon, on m'a dit, attention, les candidatures, on a bien vu, à la fin, c'est deux non-indépendantistes qui sont élus. Mais là, vraiment, dans cette séquence, on a vraiment besoin d'unité. Or, vous voyez bien, quand on est à la table, on est six. Donc le parti de Sonia Baquès, il y avait également Brieux Frogier, il y avait donc Nicolas Mézor, Gilles Brial pour les loyalistes, Alcide Ponga et moi-même pour le Rassemblement, puis vous avez aussi Philippe Gomez et Philippe Dunoyer. Donc Philippe Dunoyer s'exprime en fait presque pas, enfin on n'entend presque pas, mais par contre Philippe Gomez passe le temps de réunion à dire Daniel Goa souhaite Kanaki 2025, et donc en fait à dire ce que les indépendantistes pensent, alors que nous on est là pour défendre la famille des partisans de la Calédonie française. Donc le problème c'est que ce manque d'unité, puis on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose son objectif c'est de faire le contraire, donc ça désunit, c'est triste, et le problème c'est que c'est juste pour exister soi-même. Et là, on n'est plus dans une phase où il y a une possibilité, on peut se payer le luxe d'exister soi-même, quoi. Donc, c'est triste. Mais en même temps, vous savez, je pense que quand même, je ne sais pas quelle est la considération de ce personnage, mais en tout cas, nous, on est triste de pas pouvoir faire l'union totale, voilà.
Mais voilà, on parlait des sénatoriales. Dans cette perspective, est-ce que Calédonie Ensemble pourrait jouer la division, à votre avis? Puisque vous dites, il suffit qu'on fasse quelque chose pour qu'il fasse l'inverse. C'est un risque ou c'est pas mesuré pour l'instant, c'est pas l'un des éléments que vous prenez en compte?
Bah, vous savez, Calédonie Ensemble a beaucoup perdu aux dernières élections municipales notamment. Ils ont plus que 20 grands électeurs, donc ils font plus la partie du tout où ils étaient beaucoup plus par le passé. Et par conséquent, aujourd'hui, ils n'ont pas trop voix au chapitre sur cette élection. Mais bon, comme d'habitude, je suppose, j'imagine, peut-être qu'ils joueront les divisions potentielles de candidats potentiellement dissidents qui viendraient diviser les partisans de la France et favoriser à terme l'élection d'un sénateur indépendantiste.
Alors l'avenir immédiat, vous nous parliez tout à l'heure de François-Xavier Bellamy qui sera là la semaine prochaine, et puis très vite il y a le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui arrive début juin. C'est confirmé, vous attendez quoi de cette visite? C'est une nouvelle impulsion? C'est enfin mettre autour de la table les trois partenaires? C'est que... Comment est-ce que vous voyez les choses?
Moi, je considère que les indépendantistes ont eu raison de demander ces deux bilans qu'ils ont souhaités. À la fois le bilan de l'accord de Nouméa et celui de la décolonisation. En fait, l'accord de Nouméa, comme l'accord Matignon, ce sont des accords de décolonisation. Hein. Donc, ils mettent en place des dispositifs pour finalement... Voilà. Donc, c'est important qu'il y ait cette demande parce que ça va nous permettre de parler de fond. Et donc, ce qu'on en attend, c'est qu'effectivement, le ministre nous rassemble au travers du constat des 30 années passées, en fait. Hein. Donc, voilà, à quoi on en est aujourd'hui, quand on condamnait les effets de ces accords. Donc, vous voyez, c'est quand même des moments importants. Et j'espère que des liens de fraternité, et en tout cas des passerelles, s'établiront de manière à retrouver des espaces de dialogue constructifs pour parler vraiment de l'avenir des Calédoniens et ce qui préoccupe. Et je voudrais vraiment dire aux Calédoniens qu'il ne faut pas qu'ils s'angoissent. Parce que j'en vois beaucoup qui sont très stressés, qui ont peur, qui se disent « mais on n'y arrivera jamais ». Vous savez, il y a quand même une hémorragie qu'il faut arrêter, de personnes qui s'en vont, qui quittent le territoire, pourtant qui y vivaient depuis très longtemps. Donc non, il ne faut pas faire ça. On va trouver la solution. On va trouver des solutions. Il faut essayer de les rassurer. On met tout notre cœur et notre énergie. Nous ne sommes pas aujourd'hui en situation de dire nous allons céder ou quoi que ce soit. Nous sommes déterminés parce que nous ne voulons rien lâcher. Parce que d'abord, on a une légitimité à ne rien lâcher parce que les Calédoniens ont voté. Et même si, certes, personne n'imposera à l'autre quoi que ce soit, parce que voilà, mais... N'empêche que nous, on a cette légitimité des trois référendums gagnés. Et donc, nous savons que nous devons défendre ce choix que les Calédoniens ont affirmé difficilement, mais clairement. Donc, voilà, qu'ils soient rassurés. On va faire toute notre énergie est mise sur ces enjeux aujourd'hui dans lesquels nous sommes totalement impliqués.
Avant de refermer ce magazine Transparence, Gérard Ruffnac, une question d'actualité. L'un des sujets d'actualité, la crise du financement de l'enseignement privé. On sait que la DEC était dans la rue ce matin. C'est un dossier que vous suivez de près, que vous connaissez bien. Hein. Oui. Quelle solution faut-il trouver aujourd'hui pour le financement de l'enseignement privé en Nouvelle-Calédonie? Qui va payer à la fin? Et est-ce qu'on va arriver à sauver?
Bien sûr, d'abord je veux saluer les milliers de personnes qui, enfants, parents, scolarisés à l'ADEC, et Dieu sait que l'enseignement privé est important en Nouvelle-Calédonie, qu'il nous faut le soutenir, qui se sont déplacés ce matin pour défendre effectivement cet enseignement. Je voudrais dire que c'est vraiment cette affaire-là. Moi, j'en veux beaucoup hein, au président du gouvernement, parce que quand nous sommes en débat d'orientation budgétaire au Congrès, il y a 600 millions qui sont prévus par l'ADEC. Donc nous, on se sent un peu rassurés. Et d'un seul coup, on découvre le budget, donc le vrai budget. Le débat, c'est le débat, mais après, il y a le vrai budget qui arrive en séance. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien pour l'ADEC. Donc, je co-signe avec Françoise Suvé, la présidente du groupe loyaliste, un amendement réclamant 400 millions pour l'ADEC. Les indépendantistes au Congrès balayent d'un revers de la main cet amendement, est donc zéro pour l'ADEC. Par ailleurs, mais Sonia Baquès a très bien expliqué les choses. Il y a eu le groupe des présidents d'exécutifs qui se sont réunis à plusieurs reprises. Il a été dit que effectivement c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, que depuis des années, la province assumait, mais à tort, puisque c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement a affirmé que oui, enfin en tout cas a accepté cela, et il était convenu qu'il y ait des financements par la Nouvelle-Calédonie elle-même. Aujourd'hui, donc, dans quelle situation nous sommes? Évidemment, il n'est pas possible de laisser l'ADEC dans une situation catastrophique.
On fait beaucoup le procès à la province sud de refuser de payer.
En fait, c'est au gouvernement de payer. Donc, il faut vraiment s'adresser au président du gouvernement. Mais ce que je constate, c'est qu'à nouveau, encore une fois, c'est quand même la présidente de la province qui fait le pas, puisqu'elle a proposé une réunion de travail sur le sujet avec son homologue, enfin pas son homologue, mais le président du gouvernement, et qui a toujours pas de réponse sur l'organisation de cette réunion. Donc, vous voyez, c'est pas possible. Hein. On peut pas, nous, toujours pallier à la défaillance de certains, je ne dis pas tous, mais en tout cas de certains responsables indépendantistes quand ils sont en responsabilité. Parce que là, c'est à eux d'assumer aussi sur ce sujet. Et nous, à chaque fois, si on fait comme si de rien et qu'on assume à leur place, c'est comme si tout allait bien finalement. C'est un vrai problème.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous dites aux parents et aux enfants scolarisés dans l'enseignement privé? On va trouver une solution quand même pour financer cet enseignement.
Je dis que Louis Mapou doit accepter ce rendez-vous avec Sonia Baquès pour que les deux responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie, président du gouvernement, président de province, se mettent autour d'une table et trouvent les solutions nécessaires, et qu'il faut absolument trouver une solution, mais que le président du gouvernement, doit faire son travail. Je dis bien le président du gouvernement, parce que vous savez qu'Isabelle Chamorro est très investie sur ce dossier, et a demandé plusieurs fois au président du gouvernement que des moyens soient débloqués. Vous savez, quand on sait que le Sénat coutumier a eu des moyens supplémentaires, alors que de nombreux coutumiers remettent fortement en cause aujourd'hui l'efficacité du Sénat coutumier en tant que tel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a des choix politiques qui sont faits à un moment donné. Mais l'école, c'est fondamental. Quand nous avions, l'année dernière, quitté l'hémicycle lors du budget et que toute la formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie et l'insertion avaient été sucrées par le président du gouvernement dans son budget et que ces budgets étaient remis avec des centaines de millions supplémentaires sur le Sénat coutumier, vous croyez qu'on le prend comment, en fait? Donc, il faut qu'ils fassent leur pas. Il n'est pas question pour nous de céder, mais en tout cas, moi, je demande à ce que le président du gouvernement rentre en discussion avec la présidente de la province sud pour trouver une solution pour l'ensemble de nos enfants et de leurs parents qui sont enfants scolarisés à l'ADEC.
Il est encore à Paris, le président du Rassemblement, donc le temps qu'il...
Gouvernement.
Le président du gouvernement, pardon. Il est encore à Paris, et donc le temps qu'il revienne pour... organiser cette réunion, j'imagine. Virginie Ruffin, merci d'accepter notre invitation à ce magazine Transparence.
Merci à vous.